Chapitre 2. On avait mis le couvert sur la véranda qui dominait la rivière. La villa Printemps, louée par la marquise Obardi, se trouvait à mi-hauteur du coteau, juste à la courbe de la Seine qui venait tourner devant le mur du jardin coulant vers Marly. En face de la demeure, l'île de Croissy formait un horizon de grands arbres, une masse de verdure où on voyait au long bout du large fleuve jusqu'au café flottant de la Gonouillère caché sous les feuillages. Le soir tombait, un de ces soirs calmes au bord de l'eau, coloré et doux, un de ces soirs tranquilles qui donnent la sensation du bonheur. Aucun souffle d'air ne remuait les branches, aucun frisson de vent ne passait sur la surface unie et claire de la Seine. Il ne faisait pas trop chaud, cependant il faisait tiède, il faisait bon vivre. La fraîcheur bienfaisante des berges de la Seine montait vers le ciel serein. Le soleil s'en allait derrière les arbres, vers d'autres contrées, et en aspirait, semblait-il, le bien-être de la terre endormie déjà. On aspirait dans la paix de l'espace la vie nonchalante du monde. Quand on sortit du salon pour s'asseoir à table, chacun s'extasia. Une gaieté attendrie envahit les cœurs. On sentait qu'on serait si bien à dîner là, dans cette campagne, avec cette grande rivière et cette fin de jour pour décor, en respirant cet air limpide et savoureux. La marquise avait pris le bras de Saval, Yvette celui de Servigny. Ils étaient seuls tous les quatre. Les deux femmes semblaient tout autres qu'à Paris, Yvette surtout. Elle ne parlait plus guère, paraissait alanguie, grave. Saval ne la reconnaissait plus. Il lui demanda: « Qu'avez-vous donc, mademoiselle? Je vous trouve changée depuis l'autre semaine. Vous êtes devenue une personne toute raisonnable. » Elle répondit: « C'est la campagne qui m'a fait ça. Je ne suis pas la même. Je me sens toute drôle. Moi, d'ailleurs, je ne ressemble jamais deux jours de suite. Aujourd'hui, j'aurai l'air d'une folle et demain d'une élégie. » Je change comme le temps, je ne sais pas pourquoi. Voyez-vous, je suis capable de tout suivant les moments. Il y a des jours où je tuerais des gens, pas des bêtes. Jamais je ne tuerais des bêtes. Mais des gens, oui, et puis d'autres jours où je pleure pour un rien. Il me passe dans la tête un tas d'idées différentes. Ça dépend aussi comment on se lève. Chaque matin, en m'éveillant, je pourrais dire ce que je serai jusqu'au soir. Ce sont peut-être nos rêves qui nous disposent comme ça. Ça dépend aussi du livre que je viens de lire. » Elle était vêtue d'une toilette complète de flanelle blanche qui l'enveloppait délicatement dans la mollesse flottante de l'étoffe. Son corsage large, à grands plis, indiquait, sans la montrer, sans la serrer, sa poitrine libre, ferme et déjà mûre. Et son cou fin sortait d'une mousse de grosses dentelles, se penchant par mouvements adoucis, plus blond que sa robe, un bijou de chair qui portait le lourd paquet de ses cheveux d'or. Servigny la regardait longuement et il prononça: « Vous êtes adorable ce soir, mademoiselle. Je voudrais vous voir toujours ainsi. » Et elle lui dit, avec un peu de sa malice ordinaire: « Ne me faites pas de déclaration, Muscade, je la prendrai au sérieux aujourd'hui et ça pourrait vous coûter cher. » La marquise paraissait heureuse, très heureuse. Tout en noir, noblement drapée dans une robe sévère qui dessinait ses lignes pleines et fortes, un peu de rouge au corsage, une guirlande d'œillets rouges tombant de la ceinture comme une chaîne et remontant s'attacher sur la hanche, Une rose rouge dans ses cheveux sombres. Elle portait dans toute sa personne, dans cette toilette simple, où ses fleurs semblaient saigner dans son regard qui pesait ce soir-là sur les gens, dans sa voix lente, dans ses gestes rares, quelque chose d'ardent. Saval aussi semblait sérieux, absorbé. De temps en temps, il prenait dans sa main, d'un geste familier, sa barbe brune, qu'il portait taillée en pointe à la manière Henri III, et il paraissait songer à des choses profondes. Personne ne dit rien pendant quelques minutes. Puis, comme on passait une truite, Servigny déclara « Le silence a quelquefois du bon. On est souvent plus près les uns des autres quand on se tait que quand on parle. N'est-ce pas, marquise ?» Elle se retourna un peu vers lui et répondit « Ça, c'est vrai. C'est si doux de penser ensemble à des choses agréables. » Et elle leva son regard chaud vers Saval. Et ils restèrent quelques secondes à se contempler l'œil dans l'œil. Un petit mouvement presque invisible eut lieu sous la table. Servigny reprit. « Mademoiselle Yvette, vous allez me faire croire que vous êtes amoureuse si vous continuez à être aussi sage que ça. Or, de qui pouvez-vous être amoureuse? Cherchons ensemble si vous voulez. » Je laisse de côté l'armée des soupirants vulgaires. Je ne prends que les principaux. Du prince Kravalov. À ce nom, Yvette se réveilla. Mon pauvre Muscade, y songez-vous? Mais le prince a l'air d'un russe de musée de cire qui aurait obtenu des médailles dans les concours de coiffure. Bon, eh bien alors, supprimons le prince. Vous avez donc distingué le vicomte Pierre de Bellevigne. » Cette fois, elle se mit à rire et demanda « Me voyez-vous pendu au cou de Raziné ?» Elle le baptisait, selon les plans jours, Raziné, Malvoisy, Argenteuil, car elle donnait des surnoms à tout le monde. Elle lui murmurait dans le nez « Mon cher petit Pierre, ou mon divin Pedro ?» Mon adoré Pietri, mon mignon Pierrot, donne ta grosse bonne tête de toutou à ta chère petite femme qui veut l'embrasser. » Servigny annonça, « Pour enlever le 2, reste le chevalier Valréali que la marquise semble favoriser. » Yvette retrouva toute sa joie. « Larme à l'œil, mais il est pleureux à la Madeleine. » Il suit les enterrements de première classe. Je me crois morte toutes les fois qu'il me regarde. Et de trois, alors, vous avez le coup de foudre pour le baron Saval ici présent. Oh, pour monsieur de Rode, fils, non, il est trop fort. Il me semblerait que j'aime l'arc de triomphe de l'étoile. Alors, mademoiselle, il est indubitable que vous êtes amoureuse de moi. Car je suis le seul de vos adorateurs dont nous n'ayons point encore parlé. Je m'étais réservé par modestie et par prudence. Il me reste à vous remercier. » Elle répondit avec une grâce joyeuse. « De vous, Muscade? Ah, mais non! Je vous aime bien, mais je ne vous aime pas. Ah, attendez, je ne veux pas vous décourager. Je ne vous aime pas encore. » Vous avez des chances, peut-être. Persévérez, Muscade. Soyez dévoué, empressé, soumis, plein de soi, de prévenance, docile à mes moindres caprices, prêt à tout pour me plaire, et nous verrons plus tard. Mais, mademoiselle, tout ce que vous réclamez là, j'aimerais mieux vous le fournir après qu'avant, si ça ne vous faisait rien. » Elle demanda d'un air ingénu de soubrette. « Après quoi, Muscade ?»« Après que vous m'aurez montré que vous m'aimez, parbleu. » « Eh bien, faites comme si je vous aimais, et croyez-le si vous voulez. » « Mais c'est que... »« Silence, Muscade. En voilà assez sur ce sujet. » Il fit le salut militaire et se tut. Le soleil s'était enfoncé derrière l'île, mais tout le ciel demeurait flamboyant comme un brasier, et l'eau calme du fleuve semblait changer en sang. Les reflets de l'horizon rendaient rouges les maisons, les objets et les gens. Et la rose écarlate dans les cheveux de la marquise avait l'air d'une goutte de pourpre tombée des nuages sur sa tête. Yvette, regardant au loin, sa mère posa comme par mégarde sa main nue sur la main de Saval. Mais la jeune fille, alors ayant fait un mouvement, la main de la marquise s'envola d'un geste rapide et vint rajuster quelque chose dans les replis de son corsage. Savigny, qui les regardait, prononça « Si vous voulez, mademoiselle, nous irons faire un tour dans l'île après dîner. » Elle fut joyeuse de cette idée. « Oh oui, ce sera charmant. Nous irons tout seuls, n'est-ce pas, Muscade ?»«
Oui, tout seul, mademoiselle. »
Puis on se tut de nouveau. Le large silence de l'horizon, le somnolent repos du soir, engourdissait les cœurs, les corps, les voix. Il est des heures tranquilles, des heures recueillies, où il devient presque impossible de parler. Les valets servaient sans bruit. L'incendie du firmament s'éteignait et la nuit lente déployait ses ombres sur la terre. Saval demanda « Avez-vous l'intention de demeurer longtemps dans ce pays ?» Et la marquise répondit en appuyant sur chaque parole « Oui, tant que j'y serai heureuse. » Comme on n'y voyait plus, on apporta les lampes. Elles jetèrent sur la table une étrange lumière pâle sous la grande obscurité de l'espace. Et aussitôt, une pluie de mouches tomba sur la nappe. C'étaient de toutes petites mouches qui se brûlaient en passant sur les cheminées de verre, puis les ailes et les pattes grillées poudraient le linge, les plats, les coupes d'une sorte de poussière grise et sautillante. On les avalait dans le vin, on les mangeait dans les sauces, on les voyait remuer sur le pain. Et toujours, on avait le visage et les mains chatouillées par la foule innombrable et volante de ces insectes menus. Il fallait jeter sans cesse les boissons, couvrir les assiettes, manger en cachant les mets avec des précautions infinies. Ce jeu amusait Yvette. Servigny prenait soin d'abriter ce qu'elle portait à sa bouche, de garantir son verre, d'étendre sur sa tête comme un toit sa serviette déployée. Mais la marquise, dégoûtée, devint nerveuse, et la fin du dîner fut courte. Yvette, qui n'avait point oublié la proposition de Servigny, lui dit « Nous allons dans l'île maintenant. » Sa mère recommanda d'un ton languissant « Surtout ne soyez pas longtemps. Nous allons d'ailleurs vous conduire jusqu'au passeur. » Et on partit, toujours deux par deux, la jeune fille et son amie allant devant sur le chemin de halage. Ils entendaient derrière eux la marquise et Saval qui parlaient bas, très vite. Tout était noir, d'un noir épais, d'un noir d'encre. Mais le ciel, fourmillant de grains de feu, semblait les semer dans la rivière car l'eau sombre était sablée d'astres. Les grenouilles, maintenant coassaient, poussant tout le long des berges leurs notes roulantes et monotones. Et d'innombrables rossignols jetaient leurs chants légers dans l'air calme. Yvette, tout à coup, demanda « Tiens, mais on ne marche plus derrière nous. Où sont-ils ?» Et elle appela « Maman !» Aucune voix ne répondit. La jeune fille reprit « Ils peuvent pourtant pas être loin, je les entendais tout de suite. » Servigny murmura, « Oh, ils ont dû retourner, votre mère avait froid, peut-être. »
et il l'entraîna. Devant eux, une lumière brillait. C'était l'auberge de Martinet, restaurateur et pêcheur. À l'appel des promeneurs, un homme sortit de la maison et ils montèrent dans un gros bateau amarré au milieu des herbes de la rive. Le passeur prit les avirons et la lourde barque, avançant, réveillait les étoiles endormies sur l'eau, leur faisait danser une danse éperdue qui se calmait peu à peu derrière eux. Ils touchèrent l'autre rivage et descendirent sous les grands arbres. Une fraîcheur de terre humide flottait sous les branches hautes et touffues qui paraissaient porter autant de rossignols que de feuilles. Un piano lointain se mit à jouer une valse populaire. Servigny avait pris le bras d'Yvette et, tout doucement, il glissa la main derrière sa taille et la serra d'une pression douce. « À quoi pensez-vous » dit-il. « Moi, à rien, je suis très heureuse. »« Alors vous ne m'aimez point ?»« Mais oui, Muscat, je vous aime beaucoup. Seulement laissez-moi tranquille avec ça. Il fait trop beau pour écouter vos balivernes. » Il la serrait contre lui, bien qu'elle essayât par petites secousses de se dégager, et à travers la flanelle moelleuse et douce au toucher, il sentait la tiédeur de sa chair. Il balbutia. « Yvette, eh bien quoi? Mais c'est que je vous aime, moi. Vous n'êtes pas sérieux, Muscat. Mais oui, voilà longtemps que je vous aime. » Elle tentait toujours de se séparer de lui, s'efforçait de retirer son bras écrasé entre leurs deux poitrines. Et il marchait avec peine, gêné par ce lien et par ses mouvements, zigzagant comme des gens gris. Il ne savait plus que lui dire, sentant bien qu'on ne parle pas à une jeune fille comme à une femme, troublé, cherchant ce qu'il devait faire, se demandant si elle consentait ou si elle ne comprenait pas. Et se courbaturant l'esprit pour trouver des paroles tendres, justes, décisives qu'il fallait. Il répétait de seconde en seconde, « Yvette, dites Yvette !» Puis brusquement, à tout hasard, il lui jeta un baiser sur la joue. Elle fit un petit mouvement d'écart et d'un air fâché. « Oh, mais que vous êtes ridicule, allez vous me laisser tranquille !» Le ton de sa voix ne révélait point ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait, et ne la voyant pas trop irritée, il appliqua ses lèvres à la naissance du cou sur le premier duvet doré des cheveux à cet endroit charmant qu'il convoitait depuis si longtemps. Alors elle se débattit avec de grands sursauts pour s'échapper, mais il la tenait vigoureusement et lui jetant son autre main sur l'épaule, il lui fit de force tourner la tête vers lui et lui vola sur la bouche une caresse affolante et profonde. Elle glissa entre ses bras par une rapide ondulation de tout le corps, plongea le long de sa poitrine et, sortie vivement de son étreinte, elle disparut dans l'ombre avec un grand froissement de jupe, pareil au bruit d'un oiseau qui s'envole. Il demeura d'abord immobile, surpris par cette souplesse et par cette disparition. Puis, n'entendant plus rien, il appela à demi-voix « Yvette !» Elle ne répondit pas. Il se mit à marcher, fouillant les ténèbres de l'œil, cherchant dans les buissons la tache blanche que devait faire sa robe. Tout était noir. Il cria de nouveau plus fort, « Mademoiselle Yvette !» Les rossignols se turent. Il hâtait le pas, vaguement inquiet, haussant toujours le ton, « Mademoiselle Yvette ! Mademoiselle Yvette !» Rien. Il s'arrêta, écouta. Toute l'île était silencieuse. à peine un frémissement de feuilles sur sa tête. Seules les grenouilles continuent leur coassement sonore sur les rives. Alors il erra de taillis en taillis, descendant aux berges droites et broussailleuses du bras rapide, puis retournant aux berges plates et noires du bras mort. Il s'avança jusqu'en face de Bougival, revint à l'établissement de la grenouillère, fouilla tous les massifs, répétant toujours « Mamselle Yvette, où êtes-vous? Répondez !»« C'était une farce, voyons, répondez. Ne faites pas chercher comme ça !» Une horloge lointaine se mit à sonner. Il compta les coups. Minuit. Il parcourait l'île depuis 2 heures. Alors il pensa qu'elle était peut-être rentrée, et il revint très anxieux, faisant le tour par le pont. Un domestique, endormi sur un fauteuil, attendait dans le vestibule. Servigny, l'ayant réveillé, lui demanda « Y a-t-il longtemps que Mademoiselle Yvette est revenue ? Je l'ai quittée au bout du pays parce que j'avais une visite à faire. » Et le valet répondit « Oh oui, monsieur le duc, mademoiselle est rentrée avant 10 heures. » Il gagna sa chambre et se mit au lit. Il demeurait les yeux ouverts, sans pouvoir dormir. Ce baiser volé l'avait agité. Et il songeait, mais que voulait-elle? Que pensait-elle? Que savait-elle? Comme elle était jolie, enivrante. Ses désirs, fatigués par la vie qu'il menait, par toutes les femmes obtenues, par toutes les amours explorées, se réveillaient devant cette enfant singulière, si fraîche, irritante et inexplicable. Il entendit sonner 1 heure, puis 2 heures. Il ne dormirait pas, décidément. Il avait chaud, il suait, il sentait son cœur rapide battre à ses tempes, et il se leva pour ouvrir la fenêtre. Un souffle frais entra, qu'il but d'une longue aspiration. L'ombre épaisse était muette, toute noire, immobile. Mais soudain, il aperçut devant lui, dans les ténèbres du jardin, un point luisant. On lui dit un petit charbon rouge. Il pensa, tiens, un cigare. Ça ne peut être que ça vale. Et il l'appela doucement, Léon. Une voix répondit, c'est toi, Jean? Oui, attends, je descends. Il s'habilla, sortit, et rejoignant son ami qui fumait à cheval sur une chaise de fer, « Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure ?» Cheval répondit, « Moi, je me repose. » Et il se mit à rire. Servigny lui serra la main. « Oh, ben tous mes compliments, mon cher, et moi, je m'embête. » Ça veut dire que Yvette et sa mère ne se ressemblent pas. Que s'est-il passé, dis-moi ça? Servigny raconta ses tentatives et leur insuccès, puis reprit. Bon, décidément, cette petite me trouble. Figure-toi que je n'ai pas pu m'endormir. Que c'est drôle, une fillette. Ça a l'air simple comme tout et on ne sait rien d'elle. Une femme qui a vécu, qui a aimé, qui connaît la vie, on la pénètre très vite. Mais quand il s'agit d'une vierge, au contraire, on ne devine plus rien. Au fond, je commence à croire qu'elle se moque de moi. Chaval se balançait sur son siège, il prononça très lentement. Prends garde, mon cher. Elle te mène au mariage. Rappelle-toi d'illustres exemples. C'est par le même procédé que Mademoiselle de Montijo, qui était au moins de bonne race, devint impératrice, ne joue pas les Napoléons. Servigny murmura, Oh, quant à ça, je ne crains rien. Je ne suis ni un naïf ni un empereur. Il faut être l'un ou l'autre pour faire de ces coups de tête. Mais dis-moi, as-tu sommeil, toi? Oh non, pas du tout. Veux-tu faire un tour au bord de l'eau? Volontiers. Ils ouvrirent la grille et se mirent à descendre le long de la rivière vers Marly. C'était l'heure fraîche qui précède le jour, l'heure du grand sommeil, du grand repos, du calme profond. Les bruits légers de la nuit eux-mêmes s'étaient tus. Les rossignols ne chantaient plus. Les grenouilles avaient fini leur vacarme. Seule une bête inconnue, un oiseau peut-être, faisait quelque part une sorte de grincement de scie, faible, monotone, régulier comme un travail de mécanique. Servigny, qui avait par moments de la poésie et aussi de la philosophie, dit tout à coup: Bien voilà, cette fille me trouble tout à fait. En arithmétique, un et un font deux. En amour, un et un devraient faire un. Et ça fait deux tout de même. As-tu jamais senti cela, toi? Ce besoin d'absorber une femme en soi ou de disparaître en elle? Je ne parle pas du besoin bestial d'étreinte, mais de ce tourment moral et mental de ne faire qu'un avec un être, d'ouvrir à lui toute son âme, tout son cœur et de pénétrer toute sa pensée jusqu'au fond. Et jamais on ne sait rien de lui, jamais on ne découvre toutes les fluctuations de ses volontés, de ses désirs, de ses opinions. Jamais on ne devine même un peu tout l'inconnu, tout le mystère d'une âme qu'on sent si proche, d'une âme cachée derrière deux yeux, qui vous regarde, clair comme de l'eau, transparent comme si rien de secret n'était dessous, d'une âme qui vous parle par une bouche aimée, qui semble à vous tant on la désire. D'une âme qui vous jette une à une par des mots, ses pensées, et qui reste cependant plus loin de vous que les étoiles ne sont loin l'une de l'autre, plus impénétrable que ces astres. Oh, c'est drôle tout ça! Saval répondit: Oh, n'en demande pas tant, je ne regarde pas derrière les yeux. Je me préoccupe, moi, peu du contenu, mais beaucoup du contenant. Et Servigny murmura: C'est que Yvette est une singulière personne. Oh, comment va-t-elle me recevoir ce matin? Comme ils arrivaient à la machine de Marly, ils s'aperçurent que le ciel pâlissait. Des coqs commençaient à chanter dans les poulaillers, et leur voix arrivait un peu voilée par l'épaisseur des murs. Un oiseau pépillait dans un parc à gauche, répétant sans cesse une petite ritournelle d'une simplicité naïve et comique. Il serait temps de rentrer, déclara Sarral. Ils revinrent, et comme Servigny pénétrait dans sa chambre, il aperçut l'horizon tout rose par sa fenêtre demeurée ouverte. Alors il ferma sa persienne, tira et croisa ses lourds rideaux, se coucha et s'endormit enfin. Il rêva tout le long de son sommeil d'Yvette. Un bruit singulier le réveilla. Il s'assit en son lit, écouta, n'entendit plus rien. Puis ce fut tout à coup contre ses auvents un crépitement pareil à celui de la grêle qui tombe. Il sauta du lit, courut à sa fenêtre, l'ouvrit et aperçut Yvette debout dans l'allée qui lui jetait à pleines mains des poignées de sable dans la figure. Elle était habillée de rose, coiffée d'un chapeau de paille à large bord, surmontée d'une plume à la mousquetaire, et elle riait d'une façon sournoise et maligne. Eh bien, Muscade, vous dormez? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire cette nuit pour vous réveiller si tard? Est-ce que vous avez couru des aventures, mon pauvre Muscade? Il demeurait ébloui par la clarté violente du jour entrée brusquement dans son œil, encore engourdi de fatigue, et surpris de la tranquillité railleuse de la jeune fille. Il répondit, « me voilà, mademoiselle, le temps de mettre le nez dans l'eau et je descends. » Elle cria, « Dépêchez-vous, il est 10 heures. Puis j'ai un grand projet à vous communiquer, un complot que nous allons faire. Vous savez qu'on déjeune à 11 heures. » Il la trouva assise sur un banc avec un livre sur les genoux, un roman quelconque. Elle lui prit le bras, familièrement, amicalement, d'une façon franche et gaie, comme si rien ne s'était passé la veille, et l'entraînant au bout du jardin. « Voilà mon projet. Nous allons désobéir à maman et vous me mènerez tantôt à la grenouillère. Je veux voir ça, moi. Maman dit que les honnêtes femmes ne peuvent pas aller dans cet endroit-là. Moi, ça m'est bien égal qu'on puisse y aller ou pas y aller. Vous m'y conduirez, n'est-ce pas, Muscade? Et nous ferons beaucoup de tapage avec les canotiers. » Elle sentait bon, sans qu'il pût déterminer quelle odeur vague et légère voltigeait autour d'elle. Ce n'était pas un des lourds parfums de sa mère, mais un souffle discret, où il croyait saisir un soupçon de poudre d'iris, peut-être aussi un peu de verveine. D'où venait cette senteur insaisissable? De la robe, des cheveux ou de la peau? Il se demandait cela. Et comme elle lui parlait de très près, il recevait en plein visage son haleine fraîche qui lui semblait aussi délicieuse à respirer. Alors il pensa que ce fuyant parfum qu'il cherchait à reconnaître n'existait peut-être qu'évoqué par ses yeux charmés et n'était qu'une sorte d'émanation trompeuse de cette grâce jeune et séduisante. Elle disait « C'est entendu, n'est-ce pas, Muscade ? Comme il fera très chaud après déjeuner, maman ne voudra pas sortir. Elle est très molle quand il fait chaud. Nous la laisserons avec votre ami et vous m'emmènerez. Nous serons censés monter dans la forêt. Oh, si vous saviez comme ça m'amusera de voir la grenouillère !» Ils arrivaient devant la grille en face de la Seine. Un flot de soleil tombait sur la rivière endormie et luisante. Une légère brume de chaleur s'en élevait, une fumée d'eau évaporée qui mettait sur la surface du fleuve une petite vapeur miroitante. De temps en temps, un canot passait, yole rapide ou lourd bachot, et on entendait au loin des sifflets courts ou prolongés, ceux des trains qui versent chaque dimanche le peuple de Paris dans la campagne des environs, et ceux des bateaux à vapeur qui préviennent de leur approche pour passer l'écluse de Marly. Mais une petite cloche sonna. On annonçait le déjeuner, ils rentrèrent. Le repas fut silencieux. Un pesant midi de juillet écrasait la terre, oppressait les êtres. La chaleur semblait épaisse, paralysait les esprits et les corps. Les paroles engourdies ne sortaient point des lèvres, et les mouvements semblaient pénibles, comme si l'air fût devenu résistant, plus difficile à traverser. Seule, Yvette, bien que muette, paraissait animée, nerveuse d'impatience. Dès qu'on eut fini le dessert, elle demanda « Si nous allions nous promener dans la forêt, il ferait joliment bon sous les arbres. » La marquise, qui avait l'air exténuée, murmura « Es-tu folle? Est-ce qu'on peut sortir par un temps pareil ?» Et la jeune fille, ravie, reprit « Eh bien, nous allons te laisser le baron pour te tenir compagnie. » Muscade et moi, nous grimperons la côte et nous nous asseoirons sur l'herbe pour lire. » Et se tournant vers Savigny, « Ah, c'est entendu !» Il répondit, « À votre service, mademoiselle !» Elle courut prendre son chapeau. La marquise haussa les épaules en soupirant, « Elle est folle, vraiment !» Puis elle tendit avec une paresse, une fatigue dans son geste amoureux et là, sa belle main pâle au baron qui la baisa lentement. Yvette et Servigny partirent. Ils suivirent d'abord la rive, passèrent le pont, entrèrent dans l'île, puis s'assirent sur la berge du côté du bras rapide, sous les saules, car il était trop tôt encore pour aller à la grenouillère. La jeune fille aussitôt tira un livre de sa poche et dit en riant « Muscade, vous allez me faire la lecture !» Et elle lui tendit le volume. Il eut un mouvement de fuite. « Moi, je ne sais pas lire !» Elle reprit avec gravité. « Allons, pas d'excuses, pas de raison. Vous me faites encore l'effet d'un joli soupir en vous. Tout pour rien, n'est-ce pas? C'est votre devise. » Il reçut le livre, l'ouvrit, resta surpris. C'était un traité d'entomologie, une histoire des fourmis par un auteur anglais. Et comme il demeurait immobile, croyant qu'elle se moquait de lui, elle s'impatienta. « Voyons, lisez » dit-elle. Il demanda « Est-ce une gageure ou bien une simple toquade ?»« Non, mon cher, j'ai lu ce livre-là chez un libraire. » On m'a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux sur les fourmis. J'ai pensé que ce serait amusant d'apprendre la vie de ces petites bêtes en les regardant courir dans l'herbe. Lisez! Elle s'étendit tout du long sur le ventre, les coudes appuyés sur le sol et la tête entre les mains, les yeux fixés dans le gazon. Il lut. Sans doute les singes anthropoïdes sont de tous les animaux ceux qui se rapprochent le plus de l'homme par leur structure anatomique. Mais si nous considérons les mœurs des fourmis, leur organisation en société, leur vaste communauté, les maisons et les routes qu'elles construisent, leur habitude de domestiquer les animaux et même parfois de faire des esclaves, nous sommes forcés d'admettre qu'elles ont droit à réclamer une place près de l'homme dans l'échelle de l'intelligence. Et il continua d'une voix monotone, s'arrêtant de temps en temps pour demander « C'est pas assez ?» Elle faisait non de la tête. Ayant cueilli à la pointe d'un brin d'herbe arraché une fourmi errante, elle s'amusait à la faire aller d'un bout à l'autre de cette tige qu'elle renversait dès que la bête atteignait une des extrémités. Elle écoutait avec une attention concentrée et muette tous les détails surprenants sur la vie de ces frêles animaux, sur leurs installations souterraines, sur la manière dont elles élèvent, enferment et nourrissent des pucerons pour boire la liqueur sucrée qu'ils sécrètent, comme nous élevons des vaches en nos étables, sur leur coutume de domestiquer les petits insectes aveugles qui nettoient les fourmilières et d'aller en guerre pour ramener des esclaves qui prendront soin des vainqueurs avec tant de sollicitude que ceux-ci perdront même l'habitude de manger tout seuls. Et peu à peu, comme si une tendresse maternelle s'était éveillée en son cœur pour la bestiole si petiote et si intelligente, Yvette la faisait grimper sur son doigt, la regardant d'un œil ému avec une envie de l'embrasser. Et comme Servigny lisait la façon dont elles vivent en communauté, dont elles jouent entre elles en des luttes amicales de force et d'adresse, la jeune fille, enthousiasmée, voulut baiser l'insecte qui lui échappa et se mit à courir sur sa figure. Alors elle poussa un cri perçant comme si elle eût été menacée d'un danger terrible, et avec des gestes affolés, elle se frappait la joue pour rejeter la bête. Servigny, pris d'un fou rire, la cueillit par les cheveux, et mit à la place où il avait pris un long baiser, sans qu'Yvette éloigna son front. Puis elle déclara en se levant « Oh, j'aime mieux ça qu'un roman. Bon, allons à la grenouillère maintenant. » Ils arrivèrent à la partie de l'île plantée en parc et ombragée d'arbres immenses. Des couples erraient sous les hauts feuillages, le long de la Seine où glissaient les canots. C'étaient des filles avec des jeunes gens, des ouvrières avec leurs amants qui allaient en manche de chemise, la redingote sur le bras, le haut chapeau en arrière d'un air pochard et fatigué, des bourgeois avec leurs femmes, les femmes endimanchées, les enfants trottinant comme une coupée de poussins autour de leurs parents. Une rumeur lointaine et continue de voix humaines, une clameur sourde et grondante a annoncé l'établissement cher au canotier. Ils l'aperçurent tout à coup. Un immense bateau, coiffé d'un toit, amarré contre la berge, portait un peuple de femelles et de mâles attablés et buvant, ou bien debout, criant, chantant, gueulant, dansant, cabriolant au bruit d'un piano geignard, faux et vibrant comme un chaudron. De grandes filles en cheveux roux étaient, par devant et par derrière, la double provocation de leur gorge et de leur croupe, circulaient l'œil accrochant la lèvre rouge aux trois quarts grises, des mots obscènes à la bouche. D'autres dansaient éperdument, face de gaillards à moitié nus, vêtus d'une culotte de toile et d'un maillot de coton, et coiffés d'une toque de couleur comme des jockeys. Et tout cela exhalait une odeur de sueur et de poudre de riz, des émanations de parfumerie et d'aisselle. Les buveurs autour des tables engloutissaient des liquides blancs, rouges, jaunes, verts, et criaient, vociféraient sans raison, cédant à un besoin violent de faire du tapage, à un besoin de brut, d'avoir les oreilles et le cerveau pleins de vacarme. De seconde en seconde, un nageur, debout sur le toit, sautait à l'eau, jetant une pluie d'éclaboussures sur les consommateurs les plus proches, qui poussaient des hurlements de sauvages. Et sur le fleuve, une flotte d'embarcations passait. Les yoles longues et minces filaient, enlevées à grands coups d'aviron par les rameurs aux bras nus, dont les muscles roulaient sous la peau brûlée. Les canotières en robe de flanelle bleue ou de flanelle rouge, une ombrelle, rouge ou bleue aussi, ouverte sur la tête, éclatante sous l'ardent soleil, se renversaient dans leur fauteuil à l'arrière des barques et semblaient courir sur l'eau, dans une pose immobile et endormie. Des bateaux plus lourds s'en venaient lentement, chargés de monde. Un collégien goguette, voulant faire le beau, ramait avec des mouvements d'ailes de moulin et se heurtait à tous les canots dans tous les canotiers leur gueulaient. Il paraissait disperdu, après avoir failli noyer deux nageurs, poursuivi par les vociférations de la foule entassée dans le grand café flottant. Yvette, radieuse, passait au bras de Servigny au milieu de cette foule bruyante et mêlée, et semblait heureuse de ses coudoiements suspects, dévisageait les filles d'un œil tranquille et bienveillant. Regardez celle-là, Muscade, quels jolis cheveux elle a! Elles ont l'air de s'amuser beaucoup! Comme le pianiste, un canotier vêtu de rouge et coiffé d'une sorte de colossal chapeau parasol en paille attaquait une valse, Yvette saisit brusquement son compagnon par les reins et l'enleva avec cette furie qu'elle mettait à danser. Ils allèrent si longtemps et si frénétiquement que tout le monde les regardait. Les consommateurs, debout sur les tables, battaient une sorte de mesure avec leurs pieds. D'autres heurtaient les verres, et le musicien semblait devenir enragé, et tapait les touches d'ivoire avec des bondissements de la main, des gestes fous de tout le corps, en balançant éperdument sa tête abritée de son immense couvre-chef. Tout d'un coup, il s'arrêta, et se laissant glisser par terre, s'affaissa tout du long sur le sol, enseveli sous sa coiffure comme s'il était mort de fatigue. Un grand rire éclata dans le café et tout le monde applaudit. Quatre amis se précipitèrent comme on fait dans les accidents et, ramassant leurs camarades, l'emportèrent par les quatre membres après avoir posé sur son ventre l'espèce de toit dont il se coiffait. Un farteur, les suivants, entonna le « De profondis » et une procession se forma derrière le faux mort, se déroulant par les chemins de l'île, entraînant à la suite les consommateurs, les promeneurs, enfin tous les gens qu'on rencontrait. Yvette s'élança, ravie, riant de tout son cœur, causant avec tout le monde, affolée par le mouvement et le bruit. Des jeunes gens la regardaient au fond des yeux, se pressaient contre elle très allumés, semblaient la flairer, la dévêtir du regard, et Servigny commençait à craindre que l'aventure ne tourne mal à la fin. La procession allait toujours, accélérant son allure, car les quatre porteurs avaient pris le pas de course suivi par la foule hurlante. Mais tout à coup, ils se dirigèrent vers la berge, s'arrêtèrent net en arrivant au bord, balancèrent un instant leurs camarades, puis, le lâchant tous les quatre en même temps, le lancèrent dans la rivière. Un immense cri de joie jaillit de toutes les bouches, tandis que le pianiste, étourdi, barbotait, jurait, toussait, crachait de l'eau et, embourbé dans la vase, s'efforçait de remonter au rivage. Son chapeau, qui s'en allait au courant, fut rapporté par une barque. Yvette dansait de plaisir en battant des mains et répétant « Oh, Muscade, comme je m'amuse, mais comme je m'amuse !» Servigny l'observait, redevenu sérieux, un peu gêné, un peu froissé de l'avoir si bien à son aise dans ce milieu canaille. Une sorte d'instinct se révoltait en lui, cet instinct du « comme il faut qu'un homme bien né garde toujours », même quand il s'abandonne, cet instinct qui l'écarte des familiarités trop vives et des contacts trop salissants. Il se disait, s'étonnant, « Bigre, tu as de la race, toi !» Et il avait envie de la tutoyer vraiment, comme il la tutoyait dans sa pensée, comme on tutoie la première fois qu'on les voit, les femmes qui sont à tous. Il ne distinguait plus guère des créatures à cheveux roux qui les frôlaient et qui criaient de leurs voix enrouées des mots obscènes. Il courait dans cette foule. Ses mots grossiers, courts et sonores semblaient voltiger au-dessus, nés là-dedans comme des mouches sur un fumier. Il ne semblait ni choquer ni surprendre personne. Yvette ne paraissait point les remarquer. « Muscade, je veux me baigner, dit-elle, nous allons faire une pleine eau. » Il répondit « À votre service. » Ils allèrent au bureau des bains pour se procurer des costumes. Elle fut déshabillée la première et elle l'attendit, debout sur la rive, souriante sous tous les regards. Puis ils s'en allèrent côte à côte dans l'eau tiède. Elle nageait avec bonheur, avec ivresse, toute caressée par l'onde, frémissant d'un plaisir sensuel, soulevée à chaque brasse comme si elle allait s'avancer hors du fleuve. Il la suivait avec peine, essoufflé, mécontent de se sentir médiocre. Mais elle ralentit son allure, puis se tournant brusquement, elle fit la planche, les bras croisés, les yeux ouverts dans le bleu du ciel. Il regardait allongé ainsi à la surface de la rivière, la ligne onduleuse de son corps, les seins fermes, collés contre l'étoffe légère, montrant leur forme ronde et leur sommet saillant, le ventre doucement soulevé, la cuisse un peu noyée, le mollet nu miroitant à travers l'eau, et le pied mignon qui émergeait. Il la voyait tout entière, comme si elle se fût montrée exprès pour le tenter, pour s'offrir ou pour se jouer encore de lui. Et il se mit à la désirer avec une ardeur passionnée et un énervement exaspéré. Tout à coup, elle se retourna, le regarda, se mit à rire. « Vous avez une bonne tête, » dit-elle. Il fut piqué, irrité de cette raillerie, saisi par une colère méchante d'amoureux bafoué. Alors, cédant brusquement à un obscur besoin de représailles, à un désir de se venger, de la blesser, « Ça vous irait, cette vie-là » Elle demanda avec son grand air naïf, « Quoi donc ? Alors, ne vous fichez pas de moi, vous savez bien ce que je veux dire. » « Ah, mais non, parole d'honneur. Voyons, finissons cette comédie. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas ?»« Je ne vous comprends point. Oh, vous n'êtes pas si bête que ça, d'ailleurs, je vous l'ai dit hier soir. Quoi donc, j'ai oublié? Et que je vous aime. Vous? Moi? Quelle blague! Je vous jure. Eh bien, prouvez-le. Mais je ne demande que ça. Quoi, ça? Ben, à le prouver. Eh bien, faites. Oh, vous n'en disiez pas autant hier soir. Vous ne m'avez rien proposé. C'est une bêtise. Et puis d'abord, ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser. Eh bien, bon, à qui donc? Mais à maman, bien entendu. Il poussa un éclat de rire. À votre mère, non, c'est trop fort. Elle était devenue soudain très sérieuse et le regardant au fond des yeux. Écoutez, Muscade, si vous m'aimez vraiment assez pour m'épouser, parlez à maman d'abord, moi je vous répondrai après. Il crut qu'elle se moquait encore de lui et rageant tout à fait, Mamselle, vous me prenez pour un autre. Mais elle le regardait toujours de son œil doux et clair. Elle hésita, puis elle dit, « Mais je ne vous comprends toujours pas. » Alors il prononça vivement, avec quelque chose de brusque et de mauvais dans la voix, « Voyons, Yvette, finissons cette comédie ridicule qui dure depuis trop longtemps. Vous jouez à la petite fille niaise et ce rôle ne vous va point, croyez-moi. » Vous savez bien qu'il ne peut s'agir de mariage entre nous, mais d'amour. Je vous ai dit que je vous aimais, c'est la vérité. Je le répète, je vous aime. Ne faites plus semblant de ne pas comprendre et ne me traitez pas comme un sot. Ils étaient debout dans l'eau, face à face, se soutenant seulement par de petits mouvements des mains. Elle demeura quelques secondes encore immobile, comme si elle ne pouvait se décider à pénétrer le sens de ses paroles. Puis elle rougit tout à coup, elle rougit jusqu'aux cheveux. Toute sa figure s'empourpra brusquement depuis son cou jusqu'à ses oreilles, qui devinrent presque violettes. Et sans répondre un mot, elle se sauva vers la terre, nageant de toute sa force par grandes brasses précipitées. Il ne la pouvait rejoindre, il soufflait de fatigue en la suivant. Il la vit sortir de l'eau, ramasser son peignoir et gagner sa cabine sans s'être retourné. Il fut longtemps à s'habiller, très perplexe sur ce qu'il avait à faire, cherchant ce qu'il allait lui dire, se demandant s'il devait s'excuser ou persévérer. Quand il fut prêt, elle était partie, partie toute seule. Il rentra lentement, anxieuse et troublée. La marquise se prenait au bras de Saval dans l'allée ronde autour du gazon. En voyant Servigny, elle prononça de cet air nonchalant qu'elle gardait depuis la veille, Qu'est-ce que j'avais dit qu'il ne fallait point sortir par une chaleur pareille? Voilà Yvette avec un coup de soleil. Elle est partie se coucher. Elle était comme un coquelicot, la pauvre enfant. Elle a une migraine atroce. Vous vous serez promené en plein soleil, vous aurez fait des folies, que sais-je moi. Vous êtes aussi peu raisonnable qu'elle. La jeune fille ne descendit point pour dîner. Comme on voulait lui porter à manger, elle répondit à travers la porte qu'elle n'avait pas faim, car elle s'était enfermée et elle pria qu'on la laissât tranquille. Les deux jeunes gens partirent par le train de 10 heures, en promettant de revenir le jeudi suivant, et la marquise s'assit devant sa fenêtre ouverte pour rêver, écoutant au loin l'orchestre du bal des canotiers jeter sa musique sautillante dans le grand silence solennel de la nuit. Entraînée pour l'amour et par l'amour, comme on l'est pour le cheval ou l'aviron. Elle avait de subites tendresses qui l'envahissaient comme une maladie. Ses passions la saisissaient brusquement, la pénétraient tout entière, l'affolaient, l'énervaient ou l'accablaient, selon qu'elles avaient un caractère exalté, violent, dramatique ou sentimental. Elle était une de ces femmes créées pour aimer et pour être aimée. Partie de très bas, arrivée par l'amour dont elle avait fait une profession presque sans le savoir, agissant par instinct, par adresse innée, elle acceptait l'argent comme les baisers, naturellement, sans distinguer, employant son flair remarquable d'une façon irraisonnée et simple, comme font les animaux qui rendent subtiles les nécessités de l'existence. Beaucoup d'hommes avaient passé dans ses bras sans qu'elle éprouvât pour eux aucune tendresse, sans qu'elle ressentît non plus aucun dégoût de leurs étreintes. Elle subissait les enlacements quelconques avec une indifférence tranquille, comme on mange en voyage de toutes les cuisines, car il faut bien vivre. Mais de temps en temps, son cœur ou sa chair s'allumait, et elle tombait alors dans une grande passion, qui durait quelques semaines ou quelques mois, selon les qualités physiques ou morales de son amant. C'était les moments délicieux de sa vie. Elle aimait de toute son âme, de tout son corps, avec emportement, avec extase. Elle se jetait dans l'amour comme on se jette dans un fleuve pour se noyer et se laissait emporter, prête à mourir s'il le fallait, enivrée, affolée, infiniment heureuse. Elle s'imaginait chaque fois n'avoir jamais ressenti pareille chose auparavant, et elle se serait fort étonnée si on lui eût rappelé de combien d'hommes différents elle avait rêvé éperdument pendant ses nuits entières en regardant les étoiles. Saval l'avait captivée, capturée corps et âme. Elle songeait à lui, bercée par son image et par son souvenir, dans l'exaltation calme du bonheur accompli, du bonheur présent et certain. Un bruit derrière elle la fit se retourner. Yvette venait d'entrer, encore vêtue comme dans le jour, mais pâle maintenant, les yeux luisants comme on les a après de grandes fatigues. Elle s'appuya au bord de la fenêtre ouverte en face de sa mère. « J'ai à te parler, » dit-elle. La marquise, étonnée, la regardait. Elle l'aimait en mère égoïste, fière de sa beauté, comme on l'est d'une fortune, trop belle encore elle-même pour devenir jalouse, trop indifférente pour faire les projets qu'on lui prêtait, trop subtile cependant pour ne pas avoir la conscience de cette valeur. Elle répondit, « Mais je t'écoute, mon enfant, qu'y a-t-il ?» Yvette la pénétrait du regard comme pour lire au fond de son âme, comme pour saisir toutes les sensations qu'allaient éveiller ses paroles. « Voilà, il s'est passé tantôt quelque chose d'extraordinaire. Quoi donc ? Monsieur de Servigny m'a dit qu'il m'aimait. » La marquise, inquiète, attendait. Comme Yvette ne parlait plus, elle demanda « Comment t'a-t-il dit cela ? Explique-toi. » Alors la jeune fille, s'asseyant au pied de sa mère dans une pose câline qui lui était familière, et pressant ses mains, ajouta « Il m'a demandé en mariage. » Madame Bobardi fit un geste brusque de stupéfaction et s'écria « « Servigny, mais tu es folle !» Yvette n'avait point détourné les yeux du visage de sa mère, épiant sa pensée et sa surprise. Elle demanda d'une voix grave, « Mais pourquoi suis-je folle ? Pourquoi monsieur de Servigny ne m'épouserait-il pas ?» La marquise, embarrassée, balbutia, « Mais tu t'es trompée, c'est pas possible. Tu as mal entendu ou mal compris. » Monsieur de Servigny est trop riche pour toi et trop parisien pour se marier. » Yvette s'était levée lentement. Elle ajouta, « Mais s'il m'aime comme il le dit, maman ? » Sa mère reprit avec un peu d'impatience. Mais je te croyais assez grande et assez instruite de la vie pour ne pas te faire de ces idées-là. Servigny est un viveur et un égoïste. Il n'épousera qu'une femme de son monde et de sa fortune. Si t'as demandé en mariage, c'est qu'il veut, enfin, c'est qu'il veut. La marquise, incapable de dire ses soupçons, se tut une seconde puis reprit. Allez, tiens, laisse-moi tranquille et va te coucher. Et la jeune fille, comme si elle savait maintenant ce qu'elle désirait, répondit d'une voix docile. « Oui, maman. » Elle baisa sa mère au front et s'éloigna d'un pas très calme. Comme elle allait franchir la porte, la marquise la rappela. « Et ton coup de soleil ?» dit-elle. « Non, je n'avais rien. C'était ça qui m'avait rendu toute chose. » Et la marquise ajouta. Nous en reparlerons, mais surtout ne reste plus seul avec lui d'ici quelque temps, et sois bien sûr qu'il ne t'épousera pas, entendu, et qu'il veut seulement te compromettre. Elle n'avait point trouvé mieux pour exprimer sa pensée, et Yvette rentra chez elle. Madame Obardy se mit à songer. Vivant depuis années dans une quiétude amoureuse et opulente, elle avait écarté avec soin de son esprit toutes les réflexions qui pouvaient la préoccuper, l'inquiéter ou l'attrister. Jamais elle n'avait voulu se demander ce que deviendrait Yvette. Il serait toujours assez tôt d'y songer quand les difficultés arriveraient. Elle sentait bien, avec son flair de courtisane, que sa fille ne pourrait épouser un homme riche et du vrai monde que par un hasard tout à fait improbable, par une de ces surprises de l'amour qui placent des aventurières sur les trônes. Mais elle n'y comptait point, d'ailleurs, trop occupée d'elle-même pour combiner des projets qui ne la concernaient pas directement. Yvette ferait comme sa mère, sans doute. Elle serait une femme d'amour, pourquoi pas. Mais jamais la marquise n'avait osé se demander quand ni comment cela arriverait. Et voilà que sa fille, tout d'un coup, sans préparation, lui posait une de ces questions auxquelles on ne pouvait pas répondre, la forçait à prendre une attitude dans une affaire si difficile, si délicate, si dangereuse à tous égards, et si troublante pour sa conscience, pour la conscience qu'on doit montrer quand il s'agit de son enfant et de ses choses. Elle avait trop d'astuces naturelles, astuces sommeillantes, mais jamais endormies, pour s'être trompée une minute sur les intentions de Servigny, car elle connaissait les hommes par expérience, et surtout les hommes de cette race-là. Aussi, dès les premiers mots prononcés par Yvette, s'était-elle écriée presque malgré elle, « Servigny est épousé, mais tu es folle !» Mais comment avait-il employé ce vieux moyen, lui, ce malin, ce roué, cet homme à fête et à femme? Qu'allait-il faire à présent? Et elle, la petite, comment la prévenir plus clairement, la défendre même, car elle pouvait se laisser aller à de grosses bêtises? Aurait-on jamais cru que cette grande fille était demeurée aussi naïve, aussi peu instruite et peu rusée? Et la marquise, fort perplexe et fatiguée déjà de réfléchir, cherchait ce qu'il fallait faire sans trouver rien, car la situation lui semblait vraiment embarrassante. Hélas de ses tracas, elle pensa, bon, je les surveillerai de près, j'agirai suivant les circonstances. S'il le faut même, je parlerai à Servigny, qui est fin et qui me comprendra à demi-mot. Elle ne se demanda pas ce qu'elle lui dirait, ni ce qu'il répondrait, ni quel genre de convention pourrait s'établir entre eux, mais heureuse d'être soulagée de ce souci, sans avoir eu à prendre de résolution, elle se remit à songer au beau Saval et, les yeux perdus dans la nuit, tournée vers la droite, vers cette lueur brumeuse qui plane sur Paris, elle envoya de ses deux mains des baisers vers la grande ville, des baisers rapides qu'elle jetait dans l'ombre l'un sur l'autre sans compter, et tout bas, comme si elle lui eût parlé encore, elle murmurait « Je t'aime, je t'aime !»